Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Les 10 ans de la semaine des alternatives aux pesticides a lieu du 20 au 30 mars et a pour thème nutrition et santé. Sur l'île Dieu, des actions sont menées le mercredi 25 et jeudi 26 mars avec la mairie de l'île Dieu, l'association Yeux Demain et le collectif agricole. Pour nous en parler de ces actions, on accueille Georges Bureau. Bonjour Georges.
Bonjour Roland.
Tu es membre du collectif agricole, c'est bien ça?
Oui, moi je suis le président du collectif agricole.
Depuis combien d'années l'île Dieu participe à la semaine des alternatives aux pesticides?
Eh bien, ça va faire la quatrième année que nous participons. Alors, quand je dis nous, c'est en fait un ensemble de personnes qui sont soit membres d'associations ou non membres et qui ont envie de poser le problème sur la place publique des pesticides, de leur utilisation et surtout de leurs inconvénients et de leurs conséquences sur la santé et cette santé qui passe généralement par la nutrition.
Quels sont les principaux inconvénients des pesticides?
Et les principaux inconvénients, c'est c'est ce qu'on appelle principalement les perturbateurs endocriniens.
Mmh.
Donc, ces perturbateurs endocriniens sont là, il y a des risques de cancer qu'on n'a pas autrement. Donc là, ils s'en sont rendus compte quand même, les chercheurs s'en sont rendus compte à propos d'un certain nombre de pesticides qui n'avaient pas de doute là-dessus. Ces perturbateurs endocriniens étaient la cause de nombreux cancers. La grande difficulté dans les pesticides, c'est qu'on ne peut jamais dire à tel pesticide correspond un cancer, mmh, ou correspond une maladie cardiovasculaire, ou correspond à un autre problème de santé.
À ce jour, on n'en sait rien.
On n'en sait rien, parce que généralement, c'est des cocktails de pesticides qui sont utilisés ensemble.
Plusieurs pesticides ensemble.
Plusieurs pesticides ensemble, ou alors des produits qui permettent d'utiliser le pesticide. Parce que le pesticide, il est pas. Il faut aussi des adjuvants pour, mmh, pouvoir utiliser ces pesticides. Hein, de la même façon que quand on prend un cachet d'aspirine, dans notre cachet d'aspirine, il y a plein d'adjuvants qui sont marqués sur la feuille dans la boîte d'aspirine, mmh, qui permettent donc de pouvoir avaler et digérer ce médicament. Pour les pesticides, il faut aussi des adjuvants. Et parfois, les adjuvants sont même pires que le pesticide ou. C'est le cocktail des deux qui devient pire que le pesticide quand il est analysé tout seul. Hein. C'est Serralini, qui est un chercheur, qui a montré ça, notamment sur le fameux Roundup de Monsanto, hein, où il a montré, en faisant des analyses sur des rats pendant 6 mois, que, donc sur à peu près la vie d'un mois, la vie d'un rat, que les adjuvants pouvaient être aussi désastreux que le pesticide en lui-même.
Le pesticide en lui-même est, on peut dire, peu dangereux, non?
Ah si, oh là là. Non, j'ai pas dit ça.
Non, mais c'est pour ça que je voulais remonter un petit peu en pression.
Oui,
c'est pour
ça. Oui. Non, c'est non, c'est que on parle toujours de pesticides, mais il faut pas oublier les adjuvants. Hein. Uh-huh. Voilà, c'est un ensemble. Et c'est pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la relation entre maladie et pesticides, où tous les chercheurs qui travaillent là-dessus et beaucoup de médecins vous diront qu'ils ont l'intime conviction que c'est ça le problème. Hein. Mais on n'a pas, en France et dans les pays étrangers de la même façon, on ne fait pas assez de recherches sur les conséquences des pesticides.
Il n'y a pas assez d'études.
Et quand une entreprise qui fabrique les pesticides demande une autorisation de mise sur le marché, donc les fameuses AMM, mm-hmm, ils ne font des études, par exemple, sur le rat, qui ne durent que 2 mois. Or, la vie d'un rat, c'est, ou d'une souris, c'est au minimum 6 mois. Donc, il faudrait faire l'étude sur 6 mois pour être sûr que... qu'est-ce qui va se passer pendant ces 6 mois? Parce que les 2 premiers mois...
Est-ce que le rat ou la souris va vivre plus de 6 mois? enfin oui, les 6 mois avec les pesticides.
Et surtout que entre le deuxième mois et le sixième mois, est-ce qu'il y a des maladies qui vont se développer qui sont dues à une prise de pesticides pendant les deux premiers mois, par exemple. Et ça, pour l'être humain, c'est extrêmement important parce que notre vie, elle dure... On peut espérer qu'elle dure 100 ans, enfin bon...
On va dire 90 ans.
On va dire 90 ans. Et même là, on est optimiste. On va dire 90 ans. Mais si on fait des études sur une durée de vie qui est de 5 ans, par exemple, bah, qu'est-ce qui se passe le reste du temps? Il faut l'étudier. Voilà.
Les études ne sont pas assez longues.
Les études ne sont pas assez longues, elles ne sont pas assez fouillées, elles ne sont pas assez suivies. Et c'est pour ça que Serra Lini... L'étude qu'il a fait, justement, sur les souris pendant 6 mois, il a été très vilipendé. Il y en a plein qui ont dit, plein de chercheurs, enfin, surtout parmi les entreprises, les laboratoires qui fabriquent les pesticides, qui ont dit que votre étude, elle vaut rien parce que vous avez oublié
tout. Ça mène à rien, ouais.
Voilà. Hein. Mais en fait, malheureusement, il a mis le doigt sur les problèmes et... Et quand même, l'Europe a été obligée d'admettre qu'il fallait revoir les protocoles d'études pour les autorisations de mise sur le marché.
C'est une bonne avancée tout de même, non?
Pour l'instant, ça ne se met pas trop en œuvre, quoi. C'est ça le problème. Hein,
ça devrait se mettre en œuvre à partir de quand?
On n'en sait rien.
Vous n'en savez rien encore?
On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et puis le problème, c'est qu'on pourrait dire que quasiment toutes les semaines, il y a un nouveau pesticide qui est créé.
Encore plus puissant que le précédent.
Oui, ce qui est logique. Oui, oui,
c'est dans la logique des choses.
Et ou alors les méthodes ne sont plus les mêmes. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, pour le maïs, pour le tournesol, pour le blé, pour plein de cultures de ce genre-là, on ne voit plus les agriculteurs répandre sur les cultures des pesticides. Maintenant, ces pesticides, ils sont intégrés dans la semence. Dès le départ. Et la semence va lever et diffuser pendant toute la vie de la plante le pesticide.
J'ai envie de te dire, c'est vachement bien fait tout de même.
Oui, mais bien sûr.
C'est un terme scientifique, c'est vachement bien fait.
Voilà, hein? on est des apprentis sorciers, c'est ça le problème. Hein? Bien sûr qu'on peut, on peut dire que la science, elle arrive à faire des choses fantastiques. C'est vrai, on ne peut pas le nier.
Mais dans ce domaine-là, c'est une catastrophe.
Mais dans ce domaine-là, l'utilisation de ce qui a été trouvé devient une catastrophe. Hein.
Tu nous as parlé de cancer, mais par contre, par rapport aux allergies, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'allergies, est-ce que c'est lié ou on ne le sait pas encore?
Le nombre d'allergies qui augmentent à une vitesse vertigineuse est lié aux problèmes environnementaux. Hein. Et dans ces problèmes environnementaux, il n'y a pas que les pesticides en tant que tels.
Il y a la pollution?
Il y a la pollution dans les maisons, par exemple. Hein. Souvent, les pollutions qui sont liées à ce qu'on appelle les COV, les peintures, les canapés, enfin plein de produits qui sont utilisés pour empêcher, par exemple, les insectes de venir dedans, hein, mais qui sont des pesticides quelque part. Hein. Mais il y a tous ces problèmes-là.
J'ai l'impression que tout est lié. Non?
Oui, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout est lié. On est dans une façon de développer la société qui est basée beaucoup sur des progrès scientifiques qu'on applique un peu à tout va et sans se rendre compte des conséquences que ça allait avoir. Et c'est aujourd'hui.
Ou peut-être en se rendant compte, mais en se disant, on verra ce qui se passe.
On verra bien. On verra bien. C'est-à-dire, on n'est pas loin, là aussi, du nucléaire. Hein, où le nucléaire, on sait, par exemple, qu'il faudra des centaines de milliers d'années pour que les déchets nucléaires disparaissent. Hein, mais après, nous, le déluge. Hein, c'est un peu ça, quoi. Donc, la semaine des alternatives aux pesticides, c'est pour dire non, pas après nous, le déluge. C'est maintenant.
C'est important.
C'est important et c'est maintenant qu'il faut prendre ça en compte.
Y a-t-il une prise de conscience des habitants de l'Île-Dieu par rapport à cette problématique? Ou c'est encore un petit peu mou et plat?
C'est toujours trop mou pour nous.
Oui,
bien
non,
sûr.
Mais ça, on l'entend bien. Non, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience tout de même?
Il y a une prise de conscience et cette prise de conscience, elle se traduit entre autres par le nombre de personnes qui commencent à se nourrir avec des produits bio. Alors, pas en permanence, mais de plus en plus souvent, qui sont vigilants pour leurs enfants qui viennent de naître, pour les petits-enfants qui sont vigilants à leur donner une nourriture bio.
Hein, et on est sûr que dans les produits bio, il n'y a pas de pesticides.
Dans les produits bio, il n'y a pas de pesticides volontairement. Parce qu'un agriculteur qui fait un champ de légumes à côté d'un autre champ de vignes ou de céréales qui reçoit des pesticides...
J'allais venir, mais tu es venu très bien.
Voilà, les pesticides n'ont pas de frontières.
Voilà.
C'est comme la radioactivité. Rien ne dit que le pauvre agriculteur bio, ses légumes ne vont pas être pollués par les pesticides qui sont utilisés à côté de chez lui.
On parle régulièrement de cette problématique sur cette antenne, mais j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Toujours.
Mais là, par rapport
quand on tourne un petit peu en rond.
Sur cette pollution, je pense que il y a des choses qui avancent. C'est-à-dire qu'on va peut-être un jour obtenir que lorsqu'un agriculteur est en bio, et bien qu'il obtienne qu'il y ait une distance...
un périmètre de sécurité.
Un périmètre de sécurité. Hein. Ça, c'est déjà un peu obtenu pour les abeilles. Un petit peu, hein, ça commence à venir.
À se mettre en place.
C'est loin d'être totalement ce qu'il faut, mais ça commence à se mettre en place. Bon, le mieux, ça serait que tout le monde fasse du bio.
Oui.
Hein, mais on n'aurait pas de problème.
Contre, ouais.
Et on pourrait nourrir la planète de la même façon. Hein, bon.
T'en es intimement convaincu.
Ah, mais il n'y a pas que moi. Hein.
Non, mais.
Même la FAO à l'ONU,
la FAO,
c'est-à-dire la Fondation Agricole Internationale, quoi, hein, donc qui dépend de l'ONU, dit qu'il est possible de nourrir toute la planète en bio. Il y a rien de, c'est pas impossible. Il faut bien se dire aujourd'hui que 70% de la nourriture qui est produite sur la planète est produite par des petits paysans qui généralement...
70%
qui généralement n'utilisent pas de pesticides. Il n'y a que 30% de la nourriture qui est produite par l'agriculture moderne, c'est-à-dire avec des tracteurs, des pesticides, de l'arrosage, on n'en plus finir, etc.
Le tracteur, c'est tout de même une bonne chose.
Oui. Non, je ne veux pas dire que les tracteurs ne sont pas une mauvaise chose, mais je veux dire l'agriculture industrialisée.
Voilà.
Elle ne produit que 30% de la nourriture mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore dans tous les pays, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ce sont toujours les petits paysans en agriculture familiale qui produisent la nourriture pour la communauté. Alors, on va dire, oui, c'est pas vrai, enfin, le blé, c'est essentiellement fait en Amérique, en France, etc. Bon, c'est vrai. Sauf que des régions comme l'Afrique, comme l'Asie, leur nourriture de base, ce n'est pas le blé. C'est le riz, c'est la semoule, c'est le mil. Hein. Et donc, souvent, on a un peu tendance à imposer des modes de nourriture à des populations qui ne sont pas habituées à ça. Et puis après, quand ils deviennent habitués, ben c'est difficile pour eux de revenir en arrière. Quoi.
Des modes de nourriture et de consommation aussi.
Comment ?
Des modes de consommation aussi.
Oui, c'est sûr. Hein, oui, les consommations qui ne sont pas les mêmes.
C'est aussi lié,
ouais. Oui, tout à fait.
Et ces années, quelles actions sont proposées sur les lieux ?
Alors, cette année, on va faire surtout un après-midi à la salle des fêtes au casino. Alors, donc, ça commence à 14h jusqu'à 19h. Donc, il y aura plein d'ateliers, de stands qui seront différents. Hein. Donc, il y aura des panneaux d'affichage qu'on a déjà fait, qui seront encore là. Il y aura un atelier sur les nichoirs pour les auxiliaires, pour les oiseaux. Il y aura un atelier sur les engrais verts et sur ce qu'on appelle les purins de plantes, mais enfin d'ortie, de consoude, etc. Il y aura, comme l'an dernier, une bourse aux semences.
Aux graines.
Donc,
forcément.
Oui, on demande à ceux qui en
apportent. J'aime bien le préciser tout de même.
Oui, non, mais tu as raison. Et c'est bien que ceux qui en apportent, parce qu'on va, échanger des graines, donc ceux qui en apportent, en général, ceux qui font ça, leurs graines sont bio, mais on demande...
Ils connaissent déjà le principe.
Ils connaissent le principe. Donc, échange de graines. Il y aura surtout, entre autres un stand avec une personne du GAB, qui est le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée, qui viendra animer un stand avec des jeux pour les enfants et qui sera essentiellement tourné autour du problème de la nutrition. Hein. Donc ça, je pense que ça va être très intéressant de comprendre pourquoi l'agriculture bio est intéressante avec elle, parce qu'elle va montrer comment ça se passe et quels sont les intérêts, mais d'une manière ludique.
Hein. Nutrition, coca et hamburger.
Oh, on a droit à des exceptions de temps en temps. Hein.
D'accord. ton silence en dit long, Georges.
Oui, oui. Non, mais je pense qu'il y aura aussi une réflexion à avoir sur le manger bio et le boire bio. Hein. Bon, c'est vrai que quels sont nos besoins, quelles sont nos capacités à produire et à pouvoir donc alimenter la population en restant en circuit court, quoi, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui diront à quoi ça sert de manger du bio si tu fais venir tes poires bio d'Argentine, quoi. Si elles viennent en avion...
Est-ce que c'est vraiment bio, après
Bah, c'est toujours
c'est
bio,
mais le voyage... Le mode de transport n'est pas bio.
N'est pas bio. Hein. Donc c'est vrai que c'est tout un ensemble qu'il faut voir. C'est pour ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien un ensemble de la société qu'il faut repenser. Hein.
Les circuits courts sur l'Île-Dieu, ça se met vraiment en place, j'ai l'impression, non?
De toute façon, tous les producteurs... De nourriture sur l'Île-Dieu, bio ou pas, sont en circuit court puisqu'on vend tout sur l'Île-Dieu.
Hein. C'est une bonne avancée tout de même pour l'Île-Dieu.
Oui. Puis je pense qu'avec l'objectif avec la mairie de développer l'agriculture sur l'Île-Dieu, eh bien on aura de plus en plus de possibilités de faire des produits bio alimentaires. Quoi, hein.
Grâce, entre autres, à Terre Fertile.
Voilà, Terre Fertile.
Des stands d'information, tu nous en parlais. Par exemple, se passer des pesticides au jardin. As-tu quelques pistes à nous donner?
Il y aura justement un panneau là-dessus sur les auxiliaires au jardin. Uh-huh. Hein, donc, quels sont ces auxiliaires? Comment on peut les utiliser? Comment on peut, y compris les avoir dans le jardin, les garder dans le jardin? Bon. Et donc comment aussi cultiver le sol pour que les maladies ne subsistent pas dans le jardin quand elles sont là ou les insectes pour qu'ils soient mangés par d'autres insectes, quoi.
Y a-t-il des moyens simples et rapides de se passer de pesticides dans le jardin? C'est une question.
Quand,
c'est difficile, non?
Non, c'est pas une question. C'est une question qui est intéressante parce que il ne faut pas penser qu'on peut du jour au lendemain passer de l'utilisation de pesticides à des non-pesticides. Ça nécessite un apprentissage.
Combien de temps l'apprentissage?
Il faut quelques années. Ouais. Ça nécessite une ouverture d'esprit. Ça veut dire se documenter, regarder ce qui se fait chez le voisin ou ailleurs pour comprendre ce qui se passe dans le jardin, ce qui se passe au niveau de nos auxiliaires, de nos insectes, ce qui se passe dans le sol, la vie du sol, c'est comprendre tout ça. Et quand on a compris tout ça, puis qu'on se dit, attends, là j'ai planté des salades, là oui, mais enfin bon, c'est peut-être pas le bon endroit, j'en avais déjà planté l'an dernier au même endroit, il faudrait peut-être que j'en change, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une démarche qui va se mettre en place, qui petit à petit, on va se rendre compte qu'on n'a plus besoin de pesticides, que les insectes ne sont pas là. Bon, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne va pas y avoir une invasion de pucerons.
Oui,
ou
mais...
une invasion de limaces. Bon, dans ce cas-là, il faut, surtout quand on a un jardin particulier, on sait bien que si on plante 10 salades, bon, ben, y en a 2 pour les limaces, quoi. Il faut partager, hein, c'est un peu ça. Bon,
appelle la biodiversité.
Absolument, absolument. Parce que on a des auxiliaires. Les coccinelles vont manger les pucerons.
Mm-hmm.
Et les coccinelles, pour qu'elles vivent, il leur faut des pucerons. Donc, s'il n'y a plus du tout de pucerons, il n'y a plus de coccinelles. Donc, si on a utilisé des pesticides, il n'y a plus de coccinelles. Avant que les coccinelles reviennent, eh ben, il va falloir du temps.
Mais c'est vrai que sur les dieux, en parlant de coccinelles, il y en a de moins en moins.
Ah non, moi, dans mon jardin, il y en a de plus en plus.
Ah, comme quoi? Voilà.
Voilà. Hein, donc, Et on les voit réapparaître, et on les voit presque toute l'année, parce que
Elles se sentent bien.
Elles savent qu'elles ne seront pas attaquées par des pesticides, et qu'au contraire, elles vont trouver à manger quelques pucerons, et quand moi je vois 2-3 pucerons, je les laisse, hein, je me dis, il y a bien une coccinelle qui va venir par là.
Les manger.
Et voilà, qui va en faire son casse-croûte. Hein.
Manger bio à la cantine, à la maison, c'est aussi possible, forcément.
Oui, à la maison, à la cantine. Bon, je pense que c'est une des bagarres de tous ceux qui sont pour les alternatives aux pesticides.
Dont une bagarre du collectif agricole.
Oui, du collectif agricole.
On
ne
peut pas dire bagarre, une envie, si on va dire.
Oui, tout à fait, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus, sur les lieux qui sont d'accord avec ça. Bon, on sait très bien, là aussi, que la mise en place d'une cantine bio, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi que tout le monde s'y mette. Hein. C'est-à-dire, il faut que les enfants s'y mettent, les parents, les cuisiniers, l'intendance, les agriculteurs.
Hein, c'est vraiment une envie commune.
C'est une envie commune. Hein. Et quand on a cette envie commune et qu'on se met autour de la table et qu'on peut et qu'on veut avancer, on y arrive. Et alors, certaines communes qui font ça vous diront que c'est pas beaucoup plus cher. Hein. Parce que, par exemple, si vous prenez... Si on va donner une pomme en dessert. Bon, vous donnez une pomme qui n'est pas bio, il faut en enlever au moins un quart. C'est-à-dire, il faut enlever la peau et une épaisseur dessous la peau pour ne pas avoir de pesticides dans la pomme.
Bon. Alors, mais ça, personne ne le sait, à part quelques consommateurs avertis.
Bah oui, mais ça, il faut le dire.
C'est bien de le dire.
Il faut le dire. C'est-à-dire que quand vous mangez une pomme qui n'est pas bio, il faut enlever au moins 2 mm d'épaisseur, en plus de la peau.
Merci de l'information, Georges.
Donc, si vous mangez une pomme...
Mais ça marche aussi pour les poires.
La même chose pour tous les fruits.
Ok. C'est bien de le préciser aussi.
Et le pire, c'est les fraises. Mais les fraises, par contre, on ne peut pas enlever la peau. Mais les fraises, la fraise fait partie des légumes-fruits les plus pollués. Eh oui, il n'y a pas que la pomme qui a 30 traitements par année. La pomme, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire que la pomme, elle est beaucoup traitée au moment de la fleur, etc. Elle est un peu moins traitée quand la pomme, elle est formée. Mais la fraise, elle, c'est en permanence. Donc, les fraises, c'est ce qu'il y a de plus pollué. Et donc, si vous donnez deux pommes qui ne sont pas bio et qu'on n'en mange qu'une au bout du compte, ben, si vous en donnez une vraie pomme qui est bio, ben, ça ne revient pas plus cher, même si la pomme bio est un tout petit peu plus chère. Au bout du compte, ça ne vous reviendra pas plus cher. Ça sera le même prix.
On pourra discuter de ça avec vous le mercredi 25 mars au casino entre 14h et 19h. Un autre atelier qui m'a interpellé, le parcours des légumes et fruits du champ à l'assiette.
Oui.
Peux-tu nous en dire plus, Georges ?
Là-dessus, on va essayer de commencer à travailler sur les modes de conservation.
Mmh. Très important aussi.
Absolument. Parce qu'on s'est rendu compte que on pouvait avoir des produits bio. Mais il faut aussi que derrière la chaîne de conservation soit correcte, soit bio elle aussi.
Mmh.
Les analyses qui ont été faites sur les blés conventionnels, hein, non bio, sur les pesticides au bout de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire dans le pain. Ils se sont rendus compte que les deux principaux pesticides qui restaient dans le pain n'étaient pas ceux que les agriculteurs avaient mis sur le blé, mais ce sont des pesticides qui sont mis dans les silos à blé. Pour conserver le blé dans les silos. On s'est informé et on s'est rendu compte quand même que ceux qui nous font du pain bio avec du blé bio, le blé bio n'est pas conservé dans ces silos-là, heureusement. Mais il faut faire attention. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la poire, sur les fruits.
Hein, oui, sur la poire ou
la
pomme.
Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour. Sur Envoyé spécial sur Antenne 2, ça devait aider à avoir une semaine à peu près. Sur la pomme qu'ils appellent Red Love, un bon nom, hein. Elle est toute rouge. Elle peut rester 12 mois dans des grands hangars qui sont à atmosphère confinée, hein, contrôlée, parce qu'ils rajoutent dessus un produit qui s'appelle Smart Fresh.
Hein, c'est joli aussi.
Voilà, quand on dit ça comme ça, c'est joli. Smart Fresh.
Ok, Georges.
Eh bien, c'est un produit qui est diffusé par l'intermédiaire d'un gaz, en fait, qui va se déposer sur tous les fruits et qui empêche le fruit de se décomposer, quoi, d'avoir une vie normale. Hein. Sauf qu'au bout du compte, les vitamines A et les vitamines C ont quasiment disparu. et un certain nombre, c'est-à-dire qu'au niveau de la qualité du fruit, la qualité, elle est zéro.
La qualité nutritionnelle, c'est zéro.
Voilà. Alors, évidemment, au bout de 12 mois, vous croquez dans cette pomme, c'est comme si elle venait juste d'être cueillie. Sauf qu'au niveau qualité nutritionnelle, c'est zéro, et en plus, vous bouffez du pesticide.
Merci, Georges, de tes informations.
Bah oui, mais
ça fait
dire
peur
que
tout de même.
Ce que Pierre Rabhi a dit, et il a raison, quand on se met à table, est-ce qu'il faut dire bon appétit ou bonne chance ? Hein ?
Pas de commentaire là-dessus. Le jeudi 26 à 20h30, vous proposez une projection et débat au ciné-lé Bio-attitude sans béatitude. Peux-tu nous en parler rapidement, Georges ?
Voilà,
le temps
donc,
nous est imparti.
C'est un film... un film qui est intéressant parce qu'il
pose... Un film documentaire.
Ce qui est intéressant parce qu'il pose le problème du bio, mais sans justement être béat devant le bio. Et,
que dire que c'est tout bien le bio ?
Oui, c'est ça, que ouais. Puis c'est pas facile, hein, et qu'il y a encore beaucoup de problèmes à régler.
Il y a un long chemin à faire.
Voilà, il y a un long chemin à faire. Et donc, c'est un film qui est très intéressant pour lancer le débat, pour découvrir plein de choses et discuter après. Quoi. Donc, vous êtes tous
conviés.
Et toutes conviés à venir voir ce film et à participer au débat qui s'ensuivra.
Olivier Sarrazin sera présent sur l'île du
Non, pas
du
tout. Non.
Par contre, le collectif Agricole sera présent au cinéma pour répondre aux questions des spectateurs.
Voilà.
C'est le jeudi 26 mars à 20h30 au cinéma.
Il est,
excusez-moi. Bio-attitude sans béatitude. Georges, quelque chose à rajouter pour cette semaine aux alternatives aux pesticides avant de dire au revoir ?
Eh bien, j'espère qu'il y a plein de personnes vont passer au casino l'après-midi.
Le mercredi 25.
Et puis venir voir le film. C'est une affaire qui concerne tout le monde.
On l'a bien compris, ouais.
Voilà. Et il faut que tout le monde s'y
mette. Cette génération et les générations futures.
Et voilà, absolument.
Il faut s'éduquer au plus jeune âge aussi.
Oui, dès le plus jeune âge.
Georges, quelque chose à rajouter avant de s'en
revoir ? Oui, je voulais simplement rajouter que Éco-École, donc, qui est un label qu'ont un certain nombre de lycées, d'écoles, etc. À Lille-Dieu, donc l'Éco-École fait un petit jardin avec moi et participe à cette semaine des alternatives, et notamment autour de panneaux que les élèves ont fait et qui seront présents au casino aussi cet après-midi du 25.
Le mercredi 25 mars, entre 14h et 19h au casino.
Voilà.
Et on retrouve toutes les informations de la semaine aux alternatives aux pesticides sur internet, semaine-sans-pesticides.fr. Merci Georges de toutes les informations. À très bientôt.
Merci Roland, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.